à présent...
Frédéric Worms.
À présent, ce soir, faire sa place au deuil dans un présent où il a été lui-même perturbé avec Rosaine Lebert et Jean-Michel Longniaux. À présent, donc, faire sa place au deuil. Le deuil fait suite à des expériences qui nous perturbent. Le deuil lui-même nous perturbe. Et peut-être que dans notre présent, notamment dans le présent de la pandémie, cette expérience elle-même a été encore perturbée. Comment y faire face, mais aussi comment faire sa place à cette question, à cette expérience. Nous en parlons ce soir avec Rosaine Lebert, qui est enseignante-chercheuse en philosophie au Centre d'éthique médicale de Lille et vient notamment de diriger un immense manuel de soins palliatifs après avoir fait une thèse sur le deuil qui paraîtra bientôt. Et Jean-Michel Longniaux, docteur en philosophie, chargé de cours à l'université de Namur et conseiller en éthique dans le monde de la santé en Belgique, qui vient de publier au PUF un livre intitulé « Finitude, solitude, incertitude, philosophie du deuil ». Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Rosaine Lebert.
Bonsoir Frédéric Worms.
Bonsoir Jean-Michel Longniaux.
Bonsoir.
Merci à vous d'être là. Je suis très heureux de discuter avec vous d'une question pourtant douloureuse, mais justement l'une des choses, c'est de pouvoir discuter avec plaisir même, en comprenant le sens, et ça nous aide, et ce plaisir est un critère d'ailleurs de ces questions même les plus douloureuses comme le deuil. Je voudrais d'abord vous demander à l'un et à l'autre, dans votre réflexion, mais aussi dans votre pratique, puisque vous pratiquez tous les deux, l'éthique que vous enseignez dans des hôpitaux, dans des centres de soins, aussi bien à Lille pour l'une qu'en Belgique, tout près de l'autre côté d'une frontière qui existe malgré tout encore. Je voulais vous demander si mon introduction vous paraissait pertinente. Est-ce que vos travaux, qui depuis longtemps accompagnent tous ceux qui réfléchissent sur ces questions, le deuil, la mort dans la vie humaine, les soins qui l'accompagnent, est-ce que vos travaux, vos pratiques aussi ont été perturbées en effet par l'événement de la pandémie, par ces morts soudaines et les deuils difficiles qui les ont accompagnés? Peut-être Rosaine Lebert pour commencer, vous qui enseignez et pratiquez à Lille.
Oui, alors je pourrais répondre sur deux points en fait, hein, au niveau moi de mes travaux. Ce contexte de pandémie est vraiment venu réactiver un certain nombre de questions qui traversent la société, dont on entend quand même parler, notamment avec voilà la mise au premier plan et au niveau politique par exemple des sociales et politiques des questions d'accompagnement de fin de vie et de ce que représente au final la perte dans notre société. Donc c'est venu un petit peu réactiver ces questions-là. Et puis sur un second plan, dans mes rencontres avec les professionnels de santé, hein, puisque comme vous l'avez souligné, j'interviens en éthique auprès de différents soignants qui accompagnent des personnes en fin de vie, mais voilà des personnes âgées, des enfants également, et voilà qui ont marqué dans leur récit de façon très forte cette place de la souffrance, mais également du deuil, qui est un sujet qui n'est pas évident à aborder avec les soignants, mais qui là devenait vraiment très très prégnant.
Mais quand vous dites réactiver, Rosaine Lebert, ça veut dire que la question a été évidemment relancée, ravivée par des morts. Hein. On comptait les morts tous les jours à la télévision, on nous parlait beaucoup des EHPAD en France, et sans doute en Belgique aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une sorte de coup d'arrêt à cette prise en compte, puisque finalement... pour protéger les personnes, y compris les proches des défunts, donc c'est quand même une des expériences majeures du deuil, eh bien, on les empêchait d'avoir une des dimensions de cette expérience, qui est quand même la relation concrète avec le mourant, et bientôt le défunt.
Oui, en effet, on s'est trouvé non seulement un premier écueil qui était celui d'avoir peut-être l'habitude dans nos expériences quotidiennes avant cette pandémie d'envisager le deuil sous l'angle de l'intimité, d'un rapport personnel, d'une perte personnelle, ce qui est fondamental hein, également. Mmh. Et là, c'est ce qui a été extrêmement déstabilisant, c'est la question du collectif, la question de décès en très très grand nombre, qui, à un moment donné, était difficile à penser.
En tout eux-mêmes, à coup, ça a recouvert la dimension individuelle.
Voilà, je pense, j'aurais tendance à le penser que finalement, on est rentré un petit peu dans un impensable qui concerne déjà le deuil individuel, c'est-à-dire est-ce qu'on peut envisager qu'on va perdre son proche? Est-ce que c'est possible de le concevoir? Mais à un niveau aussi massif, voilà, ce sentiment de réalité, il est quand même mis à mal.
Alors, Jean-Michel Longnot, vous-même, vous venez de publier un livre impressionnant par la façon d'aborder cet objet, donc la philosophie du deuil, en revendiquant l'approche philosophique, mais vous pratiquez aussi les conseils en éthique dans le même genre de situation. Je pense que celle que vient d'évoquer Rosen, est-ce que d'abord, vous avez vous-même vécu cet ébranlement dans l'ébranlement qu'a pu être la pandémie, et par exemple en Belgique aussi
Oui, donc la Belgique a été secouée, évidemment, comme la France, et on est toujours, évidemment, dans un contexte de sécurité, de précaution, de masques à porter, enfin ce genre de choses. Donc là, il y a une communauté à laquelle nous appartenons tous. Si je devais moi qualifier ce que nous avons vécu et qui implique un deuil, mais le deuil n'est pas le thème premier, c'est plutôt une crise sur le plan éthique. C'est-à-dire pas une crise de l'éthique, mais une crise qui est éthique. Ce que je veux dire, c'est ceci, c'est que dans le fond, on a été confronté à quoi ? À une situation donc imprévue, avec un virus qu'on ne connaît pas. Et ça nous a placés, enfin les soignants en tout cas, et alors nous on est venus un peu en soutien de cela, ça nous a placés donc tous devant en fait des dilemmes. Si vous distinguez l'éthique de la morale, ben on fait le bien, on fait pas le mal. Ben l'éthique c'est quoi ? C'est quand malheureusement la morale ne suffit plus.
Quand la situation concrète vient obliger à des
sacrifices, c'est-à-dire devoir sacrifier effectivement, et c'est là qu'il y a un deuil éventuellement si on veut en voir un. Devoir sacrifier éventuellement une valeur à laquelle on tient pour en défendre une autre, dans le cadre maintenant concret des deuils qui ont été interdits chez nous, donc c'est-à-dire les cérémonies lorsqu'un décès malheureusement avait eu lieu, bien c'est un dilemme effectivement éthique auquel on essayait de répondre, peut-être maladroitement, mais enfin on essayait d'y répondre. C'était le dilemme entre la sécurité publique d'un côté et, on pourrait dire, pour faire une opposition simpliste, la liberté des gens, la liberté individuelle des gens, c'est-à-dire ici de rendre hommage aux morts comme ils le souhaitent, en étant présents, en s'embrassant éventuellement, en se soutenant les uns les autres. Eh bien voilà, normalement dans la vie ordinaire, on soutient les deux. Et ici, on s'est retrouvé dans une situation inconnue qui fait événement et où on a fait au mieux et où, si on traduit les choses, on a eu l'impression de devoir sacrifier malheureusement une valeur importante pour en privilégier une qui semblait supérieure. Et c'est ça le jeu de l'éthique. Et du coup, c'est vrai que ça nous a donné du boulot.
Alors c'est très intéressant, Jean-Michel Longnot, votre réponse, parce qu'elle nous place déjà au cœur de votre thèse sur le deuil et d'un des enjeux dont on va certainement discuter ce soir. C'est-à-dire qu'il y a le deuil, je dirais, au sens étroit, et tellement étroit qu'il est au cœur de nos vies. C'est la perte d'un proche, et vous venez de l'évoquer, et la manière dont la pandémie est venue en perturber l'expérience. Et puis, vous-même, dans votre livre, vous donnez au mot deuil un sens beaucoup plus large. Et quand vous avez parlé du faire le deuil d'une valeur, finalement, on entend déjà ce sens beaucoup plus large. Et on a l'impression, d'ailleurs, que, finalement, pour répondre à l'expérience précise, qui pour certains est l'expérience du deuil, avant tout, cette expérience de la perte et notamment d'un proche qui a compté pour nos vies, il faut d'abord faire un deuil plus général, le deuil de l'absolu, le deuil de la certitude, et ici le deuil d'une morale pure finalement.
Voilà, oui, de la perfection qu'on voudrait bien incarner, ou dans le livre, c'est le deuil de la toute-puissance, quoi, hein, croire qu'on est capable de faire bien, de toujours faire bien, et de devoir être à la hauteur donc de l'idéal qu'on s'impose.
Mais vous pensez vraiment que, on va certainement beaucoup y revenir, que ce deuil-là, un peu philosophique, est nécessaire pour affronter le deuil au sens plus courant, au sens existentiel, au sens relationnel?
Oui, je dirais l'inverse. C'est-à-dire que c'est souvent à l'occasion des deuils concrets, c'est-à-dire donc, si on reprend l'usage habituel du terme ici, donc par exemple le deuil lié à la perte d'un être cher, que si on creuse la souffrance dans laquelle on est à ce moment-là, le désarroi dans lequel on est, on se rend compte qu'il n'y a pas simplement à faire le deuil du mort, mais que ça nous touche bien plus loin. Et donc, soit on essaye de fuir et on n'y pense plus, puis on passe à autre chose, ou bien, on se laisse emporter par la souffrance dans laquelle on est. Et alors, il y a cette possibilité de s'ouvrir à cette dimension où, effectivement, bien au-delà des circonstances de la mort d'un être cher, en fait, sur quoi porte un deuil ? Toujours là où est la souffrance, c'est-à-dire en nous. Et donc le deuil porte toujours sur soi et sur plus précisément sur ce que l'on n'est plus, qu'on voudrait tellement continuer à être, mais que malheureusement l'absence de l'autre empêche.
Oui, c'est les thèses que vous défendez, de la manière dont vous définissez le deuil. Mais donc quand même pour vous, l'expérience vient avant la pensée finalement.
Tout à fait.
Pour chacun. Et le philosophe est un peu celui qui, étant passé par là, permet aux autres de faire ce chemin. C'est-à-dire, il y a une expérience qui bouleverse, et puis malgré tout, on peut dire, il faut la traverser, il faut aller un peu plus loin pour pouvoir la surmonter finalement.
Mais c'est-à-dire que oui, l'objectif que moi je me suis donné en tout cas en écrivant cet ouvrage, c'est quoi? C'est juste de proposer des mots sur une expérience que chacun peut traverser. Alors des mots qui parlent ou qui ne parlent pas, nous sommes tous différents, nous avons des repères différents bien sûr, mais en tout cas pourquoi le faire? Ben tout simplement, donc ça veut dire que l'expérience est première, et puis à partir de là effectivement viennent les mots. Ou sinon on peut penser tout et n'importe quoi, mais si ça ne se rattache à rien, ben c'est des belles théories, mais enfin je ne sais pas si ça peut aider ici. Donc l'angle d'attaque, et je le fais sous il y a une citation mise en exergue dans le premier chapitre qui est celle d'Anna Arendt, qui dit la même chose, qui dit que la philosophie, un peu comme le disait Hegel, prend son envol finalement à partir de l'expérience. Et donc l'idée, c'est, enfin en tout cas le projet, c'est effectivement à partir de l'expérience, essayer de proposer des mots pour que tout simplement le deuil puisse être autant que faire se peut fait, ou en tout cas puisse prendre sens. Le drame, c'est quoi? Ben ça, c'est ce qu'on constate, hein, c'est ce que la clinique nous enseigne. C'est que quand on n'a pas les mots, on souffre. Et on tourne en rond. Et alors, quand on demande à quelqu'un, ça va? Non, ça ne va pas. De quoi ça? Mais pourquoi ça ne va pas? Je ne sais pas, mais ça ne va pas. Enfin, et on ne sait rien faire.
Donc, il faut nommer pour.
Il faut passer par les mots, mais ça ne suffit pas. Mais c'est l'étape préalable. Donc, une fois que j'ai les mots, je peux faire de ma souffrance une question.
Mais alors, les mots, c'est pas n'importe quel mot. Il y a d'abord le mot deuil. Oui. Il y a un certain nombre de mots que vous invoquez. Finitude, solitude, incertitude. C'est des dimensions un peu métaphysiques, là aussi, qui rejoignent notre expérience aussi dans la pandémie, dans les. Tout à fait. Crise du présent. Mais vous-même, Rosane Lebert, j'ai l'impression que vous aussi, vous voulez mettre des mots. Mais est-ce que vous sortez autant que Jean-Michel Longnot de l'expérience originaire? C'est-à-dire, au fond, il y a plusieurs approches. On a l'impression que face à la perte d'un proche, on creuse un peu l'expérience d'être soi-même, la dimension philosophique. Est-ce que vous, c'est ça que vous faites, ou est-ce que vous,
vous
creusez d'abord cette perte elle-même?
Il y a bien sûr des liens évidents, notamment sur en quoi cette expérience nous permet éventuellement d'accéder à une vie morale, ou en tout cas permet de donner sens à des choix qu'on va faire, à peut-être à des valeurs, etc. Mais moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse beaucoup dans ce travail, dans cette exploration, au final, c'est vraiment de revenir à l'expérience elle-même du deuil, et peut-être plus que d'incertitude dans laquelle nous place le deuil. Mais moi, j'ai l'impression que parfois le mot d'incertitude est un peu trop rationnel. Quand je pense à une situation de deuil, ou quand je pense à mes propres expériences de deuil, c'est pas incertitude qui vient, c'est désespoir, morcellement, c'est voilà une expérience de désespoir et total par rapport à l'existence. Où justement la difficulté de nommer, elle va être là.
Mais l'incertitude, si je comprends bien Jean-Michel Longnot, je ne veux pas parler à sa place, mais vient aussi du fait que ça vient briser une attente préalable ou une fausse certitude préalable finalement. Et c'est vrai que c'est le propre de tout événement d'ailleurs, au sens fort, mais peut-être d'un événement négatif en particulier. Est-ce qu'il n'y a pas, avant même le désespoir, cet événement de surprise, cette exclamation comme ça que nous arrache par rapport à une certitude antérieure finalement?
Oui, c'est vraiment ce que vous dites là du négatif, en fait. C'est vraiment cette traversée du négatif, où d'où naît le trauma, en fait, ce trou du deuil, de cette perte qui est une tragédie, qui est forcément une tragédie fondamentale, en fait, qui nous fonde aussi en tant qu'être humain, qui sans doute vient faire écho à d'autres pertes, à d'autres deuils éventuellement. Mais voilà, sur laquelle peut-être vont pouvoir se mettre un certain nombre de mots, peut-être que certaines théories vont être utiles à lire. Voilà. Une des questions, par exemple, moi qui m'intéresse, c'est quelles sont nos ressources face à cette blessure vive du deuil.
On va en parler, Rosane Lebert, et avec Jean-Michel Longnot aussi, de ces ressources. Mais est-ce que vous-même, vous avez aussi expérimenter ce qui était décrit par Jean-Michel Longnot, c'est-à-dire dans la crise, ce que vous commenciez à décrire dans l'expérience de comme ça qui est revenu de la mort collective, comme vous disiez, brutale, inattendue, qui vient briser des certitudes sur le progrès de la médecine, sur nos progrès sociaux. Vous avez vécu justement cet empêchement de mettre des mots concrètement cet empêchement d'être là alors que se construisaient nos systèmes de soins palliatifs, nos systèmes d'accompagnement. Je voudrais revenir sur ce moment où l'importance de tout ça nous est apparue par une double perte. C'est-à-dire, il y a des pertes et puis il y a la perte de ce qu'on avait mis en place pour répondre à cette perte. Et comment est-ce que vous l'avez vécu, j'allais dire concrètement, cet empêchement de faire votre travail tout simplement?
Alors très vite, hein, il y a eu des recommandations, des choses, beaucoup de textes qui sont sortis. Je pense en particulier pour les soins palliatifs, hein, à la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs qui a sorti des recommandations même sur comment s'adresser aux familles, aux proches, voilà, qui a donné un certain nombre de repères.
En fonction des consignes sanitaires du moment.
Voilà, en essayant de s'adapter, de donner quelques repères justement face à une incertitude, face à un désarroi aussi des familles. Et en même temps, d'un autre côté, du côté de mes pratiques concrètes d'intervention en éthique, effectivement, on s'est trouvé extrêmement empêché, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a plus de demande. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça a rencontré.
Comment est-ce qu'on appelle une consultante ou une conseillère ou un conseiller en éthique? Concrètement, qu'est-ce que c'est une intervention en éthique? Je suis sûr que moi-même, j'en suis pas sûr de le savoir, même si je rencontre beaucoup d'éthiciennes et d'éthiciens comme vous, mais je suis sûr que les gens qui nous écoutent ne sont pas du tout sûrs de ce que c'est.
Alors, intervenir en éthique, ça consiste à aller rencontrer des équipes de soignants pour un accompagnement autour des situations qu'ils rencontrent, des situations qui ne sont pas forcément a priori éthiques ou avec l'étiquette éthique, mais en tout cas qui vivent comme difficiles.
Qui supposent des choix difficiles.
Ou qui entraînent des vécus difficiles aussi, où effectivement, comme le disait Jean-Michel Lagnaud, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas de repères sur comment se sortir de cette situation. Et l'enjeu étant,
comme vous avez construit des cadres et des repères, vous pouvez aider les praticiens. Jean-Michel Lagnaud, vous-même, vous êtes aussi conseiller en éthique, dans le monde de la santé. Vous dirigez la revue Ethica Clinica. L'éthique clinique est aujourd'hui une vraie dimension, justement, travaillée depuis longtemps, un peu mise à mal aussi par la pandémie, bizarrement, comme si c'était un luxe, finalement, l'éthique clinique. Comment est-ce qu'on vous appelle aussi?
Le titre que l'on a, c'est conseiller en éthique.
Mais comment est-ce qu'on vous appelle au sens, comment est-ce qu'on vous requiert? Comment est-ce qu'on vous requiert? Comment est-ce qu'on vous appelle? Voilà. On a eu dans une émission précédente Pierre Valette qui dirige le SAMU des Hauts-de-France, justement. Lui, on l'appelle par le 15. Bon. Est-ce qu'on vous appelle? Comment est-ce qu'on fait appel? Dans quel type de cas?
On nous appelle, on est quand même un peu connu malgré tout, et donc c'est par soit mail, donc on a une adresse mail accessible et qui est publique, ou bien par téléphone via une fédération dans laquelle je travaille. Enfin bon, voilà, donc il y a des portes d'entrée comme cela.
Ça me semble très important parce que les cadres sont importants.
Oui, tout à fait. Et puis ce qui est vrai aussi, donc je suppose que vous le vérifiez également en France, c'est le bouche à oreille. Une équipe renseigne une autre équipe. Voilà, si vous avez une difficulté, vous pouvez appeler telle personne. Donc c'est assez. Donc il y a à la fois une vision publique et en même temps c'est l'informel, si vous voulez, qui joue là-dedans. Ouais. Alors maintenant, donc pourquoi on est appelé? C'est ce qui a été dit, je pense. Donc c'est vrai que c'est la même situation en Belgique, c'est pour des situations où tout d'un coup il y a une hésitation, tout d'un coup, pourvu qu'on ait ce souci de rester le plus juste possible par rapport aux patients. Donc que faire, et ou pour le dire autrement, par la négative, la question,
qu'est-ce qu'il faut pas faire surtout,
c'est-à-dire quel est le mal qu'on est prêt à assumer, si vous voulez. Si vous prenez, on peut donner des exemples, s'il faut rendre ça un peu concret. Si vous prenez par exemple une situation où vous avez un grand prématuré qui a un tableau clinique catastrophique, il est sevré sur le plan du respirateur et son état ne fait que se dégrader, il y a parfois, donc dans certains cas, des questions qui commencent à se poser, même la famille.
Décision d'arrêt de traitement.
Voilà, mais en attendant, on n'est pas là pour tuer des enfants non plus, enfin c'est terrible. Donc l'équipe se réunit, les soins n'ont plus de sens, on ne sait pas comment apaiser cet enfant qui est en souffrance éventuellement, en tout cas qui donne des signes d'être en souffrance, la famille commence à dire, mais enfin, faites quelque chose, ne le laissez pas comme ça, même un animal, on ne le laisse pas comme ça, enfin, on a déjà entendu ce genre de choses, et donc vient une réunion éthique, que faire? Si on ne fait rien, l'impression qu'on a, c'est que on laisse souffrir un enfant qui va de toute façon mourir, quel sens ça a? Et si on intervient, on arrête la vie de cet enfant, ça ne va pas non plus.
On a l'impression de contredire sa propre mission éthique.
Tout à fait, évidemment. Et n'empêche qu'on est pris
là-dedans. Jean-Michel Lagnaud, il y avait aussi des cadres, il y a des lois, c'est pas le conseiller en éthique, il intervient dans un cadre de données, évidemment. Il est nécessaire, sûrement, pour traduire le cadre, pour traduire la situation dans les termes de...
Oui, tout à fait. Donc, notre mission, c'est notamment d'abord de rappeler le cadre légal. Donc, c'est-à-dire ici, aussi que si on arrête la vie de cet enfant, c'est clairement, ce sera considéré comme un assassinat. Donc ça, c'est clair. Mais il n'empêche que l'éthique, c'est quoi? C'est pas l'obéissance à la loi. C'est, en tant qu'être humain, de se poser face à la situation en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant ce que la loi m'ordonne, voilà. Et en me demandant si dans ce cas-ci, le respect de la loi ne va pas m'amener à faire quelque chose qui serait pire que la transgression de la loi.
Et la loi elle-même peut laisser des choix.
Mais bien sûr, il y a l'état de nécessité. Enfin, c'est ce qu'on appelle chez nous.
C'est pas juste le choix de la transgression ou de la non-transgression.
Voilà. Et donc, chez nous, on appelle ça l'état de nécessité, hein. Donc, vous êtes pris, la loi reconnaît que vous êtes pris dans un conflit de valeurs et que vous allez devoir, assumer une responsabilité.
Et encore une fois, juste pour y revenir, et puis après, on reviendra sur vos conseils. Respective du deuil, dans la situation de pandémie, est-ce qu'on vous a appelé ou est-ce qu'on a suspendu ces appels?
Alors oui, on a eu des appels.
On a quand même pris le temps de consulter sur les nouvelles, justement ces inquiétudes, ces incertitudes nouvelles.
Mais c'était surtout par rapport à par rapport à des situations qui étaient tout à fait imprévisibles, hein, et principalement donc les maisons de repos. Qui se sont par exemple chez nous retrouvés dans la situation où les médecins ne venaient même plus voir les patients.
Ah oui.
Et donc les infirmières qui ont un mandat d'infirmière, ne sont pas médecins, ne peuvent pas prescrire, se retrouver dans la situation, on doit prescrire, qu'est-ce qu'on fait? Le médecin ne veut pas venir. Enfin, voilà, il y a eu des situations comme celle-là, ou bien, vous l'avez entendu, peut-être qu'en France aussi, vous avez eu le cas de personnes âgées qui devaient aller aux urgences et aux soins intensifs et qui ont été refoulées. Enfin voilà, des trucs comme ça, où c'est clair que là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'est pas équipé pour s'occuper de ces personnes en maison de repos? Enfin voilà, donc ça a été vraiment des moments difficiles, avec des gens qui pleurent, enfin des gens qui ont trinqué, il faut reconnaître que... Et donc là, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut-on mettre en place? On a proposé des outils, on a essayé de se débrouiller comme on a pu, enfin, pour au moins mettre des mots là-dessus. Mm-hmm.
Alors, parmi ces outils, il y a vos approches respectives du deuil qui affrontent la question avec la philosophie. C'est aussi votre point commun, on y revient dans un instant.
Dire que Fernand est mort. Dire qu'il est mort, Fernand. Dire que je suis seul derrière. Dire qu'il est seul devant. Lui, dans sa dernière bière. Moi, dans mon brouillard. Lui, dans son corbillard. Moi, dans mon désert. Devant, y a qu'un cheval blanc. Derrière, y a que moi qui pleure. Dire qu'il n'y a même pas de vent pour agiter mes fleurs. Moi, si j'étais le bon Dieu, je crois que j'aurais des remords. Dire que maintenant il pleut. Dire que Fernand est mort. Dire qu'on traverse Paris dans le tout petit matin. Dire qu'on traverse Paris et qu'on dirait Berlin.
Toi, France Culture,
à présent,
Frédéric Worms.
Tu dors, mais c'est
très... À présent, faire sa place au deuil, une expérience fondamentale de l'incertitude de la vie humaine, rendue elle-même incertaine dans notre moment présent. Nous en parlons ce soir avec Rosen Lebert, philosophe au Centre d'éthique médicale de Lille, et Jean-Michel Longnot, philosophe à l'Université de Namur et dans les centres de soins en Belgique. Jean-Michel Longnot, vous nous proposez cette chanson de Jacques Brel, chanteur belge, mais hanté par la mort, mais aussi par les puissances de vie, finalement, qui résistent à la mort. Dans ces puissances de vie, il y a justement la manière d'être affecté par la mort de l'autre. Hein. Ici, Fernand, il y a aussi Jojo dans les chansons de Brel. Le deuil, c'est justement cette expérience-là, et cet effet de la mort de l'un dans la vie de l'autre. Et vous, je crois que vous défendez dans votre livre l'idée que, finalement, dans le deuil, il s'agit aussi de se transformer soi-même à l'épreuve de la mort de l'autre. Mais ni de la nier, ni de s'y enfermer, finalement, Jean-Michel Longnot.
Voilà, oui. Donc le constat que j'ai cru faire en entendant des patients, en entendant des personnes raconter les deuils qu'elles traversaient, c'est que dans le fond, donc ça c'était la question de départ, enfin j'en suis arrivé à cette question qui est devenue une question de départ pour moi, c'est quand on entend les gens, mais dans le fond de quoi font-ils le deuil quoi.
Ah. Alors, vous dites pas de qui, vous dites de quoi.
De quoi, oui, parce que ça dépend des situations évidemment, hein. Ça dépend des circonstances dans lesquelles sont les gens. Alors, le premier discours que l'on entend, si on pose cette question, les gens vont dire, bah, évidemment que je fais le deuil de telle personne qui est décédée, voilà, enfin, hein, c'est une évidence, ou bien je fais le deuil de mon travail, ou je fais le deuil de, je ne sais pas moi, de mon couple, hein, si l'autre est parti, enfin voilà, donc c'est toujours expliqué finalement le deuil par un objet, avec un grand O ici, l'objet qui vient à manquer. Et quand on réfléchit un petit peu, on se dit, mais dans le fond, ce n'est pas faux, c'est-à-dire ce sont les circonstances, effectivement, qui sont évoquées à travers ce discours-là, mais ce qui est terrible, c'est que plus on parle de l'autre qui est manquant, plus on parle de l'objet qui vient à manquer, ce qui est bizarre, c'est que moins on parle de soi.
Moins on parle de soi.
Or, le problème, c'est quoi? C'est que la souffrance, elle est en soi. Et on pourrait même se demander, finalement, si en parlant de l'objet qui vient à manquer, ce n'est pas une stratégie peut-être involontaire, mais pour surtout ne pas parler de soi, évidemment. Hein.
Mais est-ce qu'il n'y a pas certaines relations, Jean-Michel Longniaux, qui ne sont pas extérieures? Est-ce que quand on parle de l'autre, on parle toujours de quelque chose d'extérieur? Est-ce qu'on n'est pas aussi constitué par certaines relations? Je ne dis pas toutes. Pourquoi le deuil du proche n'est pas tout à fait la même chose que la manière de déplorer la mort de quelqu'un qu'on ne connaissait pas, finalement?
Oui, oui, ça, bien sûr. Hein, oui, tout à fait. Mais il n'empêche que non. Donc, dans tous les cas, en essayant d'extérioriser, si vous voulez, ce que l'on est en train de traverser, en le projetant donc sur l'absence de l'autre, que ça soit un inconnu ou que ça soit s'il y a beaucoup de morts, ben voilà, donc je suis impressionné quand même, évidemment, par une catastrophe qui se serait passée, ou que ça soit un être cher, donc ça m'affectera différemment, évidemment, mais n'empêche que donc dans tous ces cas, c'est vrai que finalement ma manière de réagir à ces situations renvoie bien à qui je suis pour ces personnes, à la relation que j'ai avec elles, et ça en dit davantage sur moi finalement que sur elles. Mais par rapport au deuil, de toute façon, enfin le problème c'est le suivant, c'est que du côté du mort, il n'y a plus rien à perdre. Il est parti, il est parti.
Par ça, contre, il faut l'accepter.
C'est et la, ça, il c'est faut l'accepter. Et
donc, en soi, c'est du deuil.
Voilà. Et si vous prenez donc le deuil au sens strict, on se demande de quoi il faut faire le deuil, puisque l'autre est parti. Mais qu'est-ce que vous voulez lâcher de plus que le fait de constater qu'il est parti? Et c'est là que la conversion du regard donc est importante, évidemment. C'est quand on entend ces personnes parler de l'autre et l'autre et l'autre qui était tout pour moi et sans qui je ne pourrais pas vivre, etc. Évidemment, donc conversion du regard, c'est de se demander mais pourquoi pour moi ça m'affecte à ce point-là. Et quand on se pose cette question, pourquoi je suis touché, anéanti, dans le désespoir éventuellement, brisé, littéralement brisé, eh bien c'est vrai que là on peut commencer à toucher à ce qui fait mal, et qui est l'enjeu du deuil.
Donc finalement il y a un piège dans le discours spontané sur le deuil, mais qui révèle aussi quelque chose,
oui,
c'est qu'on se tourne vers l'autre, et il faut aussi voir qui parle, le vivant qui parle, et pas
voilà,
seulement la perte qu'il déplore. Rosane Lebert, est-ce que ça rejoint votre approche du deuil? Vous-même, avant de travailler sur les soins palliatifs de façon très large, vous avez dirigé cet énorme manuel, vous avez fait vous-même une thèse sur le deuil, deux philosophes qui ont pris cette expérience négative comme source de pensée. Est-ce que vous rapprochez beaucoup de l'analyse, de la description très forte que vient de faire Jean-Michel Longniaux?
Oui, alors effectivement, c'est vrai que la question de l'objet du deuil, de ce qu'on perd dans le deuil, c'est vraiment central. Et notamment, c'est aussi le point de départ de Freud dans ses travaux dans Deuil et Mélancolie, par exemple, qui cherche à distinguer ce qu'est le deuil d'une part et ce qu'est la mélancolie d'autre part. Et pour lui, tout se joue autour de ce qui a été perdu
l'objet lui aussi.
Voilà, ce qui est l'objet, effectivement, et ce qui fait la différence pour le mélancolique, c'est que le mélancolique sait, j'ai noté, hein, il sait sans doute qui il a perdu, mais non ce qu'il a perdu en cette personne. Donc quel est l'objet véritablement de sa perte, le mélancolique, on
donc finalement,
qu'il ne le saurait
comme
plus.
Le mélancolique est celui pour Freud qui est dans le deuil pathologique, le deuil qui est encore plus, qui devient une souffrance inguérissable, pour vous, ce que vous êtes en train de dire, c'est que celui qui en resterait au qui, d'une manière mystérieuse, comme ça, opaque, qui ne creuserait pas ce qu'il y avait dans le qui, celui-là, il serait dans une souffrance inguérissable, justement. Il faut faire ce travail d'aller jusqu'à ce que, au-delà du qui.
Alors, dans Lucky, il y a finalement énormément de travail à faire,
bah oui,
comme vous le soulignez, c'est-à-dire que dans Lucky, il y a qui je suis quand je perds l'autre, quelle part de l'autre finalement me constitue. Est-ce que c'est toi, est-ce que c'est moi, ou est-ce que c'est cette addition inédite qui fonde la relation. Finalement, ce qui y questionne véritablement la place de l'altérité dans nos vies, la place des relations dans nos vies, même à se demander, comme le fait Winnicott par exemple, si c'est pas finalement les relations qui fondent notre identité avant tout.
C'est-à-dire que pour l'un comme pour l'autre, pour vous deux, il y a dans l'expérience du deuil une sorte de révélation philosophique. Ça nous apprend quelque chose sur nous-mêmes finalement. Mais pour vous, c'est plus cette relation. Et peut-être pour Jean-Michel Longnot, à qui je vais repasser la parole, n'hésitez pas. Il y a plus aussi une dimension d'examen de soi-même, mais.
Alors j'ai un peu de mal quand même avec le terme d'apprentissage, mais je pense qu'on y reviendra dans le sens où parler d'apprentissage, ça sous-entendrait, comme on l'entend parfois et comme on voudrait l'espérer peut-être, qu'on apprend quelque chose.
Ouais, c'est trop positif.
C'est trop positif pour moi. Comme s'il y avait une dialectique du deuil, que l'expérience du deuil pouvait nous amener à quelque chose. Ouais. Voilà, comme si on retournait la chaussette pour en faire quelque chose de positif.
Pour vous, il y a un noyau dur, une sorte de trou noir qu'il faut respecter comme tel. Finalement.
Voilà, c'est dans l'œil du cyclone que tout se passe.
Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel? Vous avez l'impression qu'effectivement, vous, non pas vous dialectisez, peut-être pas, mais vous cherchez quand même à transformer ce trou noir en éclairage quand même.
Mais c'est-à-dire que, de nouveau sur la base de témoignages et de ce que des gens peuvent raconter, on a l'impression quand même qu'il y a comme un noyau qui se dégage et qui ne peut venir à la conscience que par l'expérience de la souffrance et du deuil, dans ce cas-ci, évidemment. L'hypothèse que moi j'avais faite, en travaillant ces sujets-là, ça m'avait ramené un peu à la phénoménologie, finalement, qui est un courant dans lequel je me suis formé. Et l'impression que j'avais, c'est quoi? C'est que quand on perd effectivement quelque chose qui nous est cher, on est comme mis à nu, si vous voulez. C'est-à-dire que dans le moment de la crise elle-même, quand on est désespéré, les masques tombent, qu'on soit homme ou femme, on s'en fout, qu'on soit vieux ou jeune, on s'en fout, qu'on soit riche ou pauvre, on s'en fout, il n'y a plus que la détresse et la souffrance. Et il y a comme là, tout d'un coup, effectivement, dans cette mise à nu, la possibilité, après coup évidemment, parce que quand on y est, on s'en fout de la philosophie, même la philosophie, on s'en fout. Mais quand on reprend effectivement ses esprits, en quelque sorte, quand on traverse et qu'on commence à prendre un peu distance par rapport à ce qu'on a vécu, et qu'on se demande, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Enfin, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est pas possible. Enfin, et qu'on ne se reconnaît pas éventuellement dans ce désespoir qu'on a traversé, eh bien, on peut avoir la chance... la chance, je ne sais pas si c'est un bon mot, mais enfin, on peut en tout cas effectivement
la possibilité, au moins,
voir ce qui reste de nous quand on a tout perdu, c'est-à-dire ce que nous sommes vraiment.
Ce qui est très beau dans ce que vous dites aussi, même si on peut être tenté de voir qu'il y a quelque chose qui résiste dans l'expérience, c'est cette confiance dans la philosophie, c'est-à-dire phénoménologie, c'est la capacité de décrire nos expériences comme elles sont finalement, comme nous les vivons, même ces expériences négatives les plus noires. Et vous partez aussi des stoïciens qui sont les premiers, d'après vous, et je pense que c'est très juste et très profond aussi, à mesurer l'expérience de la perte, mais aussi avec cette idée à laquelle peut-être nous résistons aujourd'hui, les expériences du XXe siècle, la psychanalyse, peut-être ont en tout cas résisté à cette thèse, mais la thèse que grâce à la philosophie, grâce au travail sur nos représentations, grâce au travail sur soi-même, on peut surmonter ces pertes. Et les stoïciens nous apprennent à nous déprendre. Voilà. Alors vous-même, je sens une très très grande confiance dans la philosophie, alors, Jean-Michel Longnot.
À la fois oui et non, c'est-à-dire que quel que soit le langage utilisé, que ce soit celui de la philosophie ou celui de l'art, ou enfin peu importe ici, en tout cas, il y a moyen de faire advenir à la lumière ou à la conscience, si vous voulez, la part sombre qui est la nôtre, ou ce qui demeure le plus souvent caché, mais en même temps, ce que nous apprennent les deuils, c'est quoi? C'est que nous voudrions bien être tout-puissants, mais malheureusement, nous ne le sommes pas. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que croire que la philosophie peut, effectivement, de manière tout à fait transparente, faire advenir à la pleine lumière ce que nous sommes, là, c'est le leurre dans lequel il ne faut pas tomber. C'est encore une tentation de la toute-puissance, finalement. Donc, les discours, on est pris là-dedans, si vous voulez. C'est qu'à la fois, c'est par le langage, effectivement, qui est un moyen privilégié, le langage au sens large, que l'on peut faire advenir ce que nous sommes et par conséquent qu'on peut se libérer de ses souffrances. Et pourtant, en même temps, C'est ça qu'il faut tenir. Ce langage n'est jamais qu'un langage particulier qui biaise ce qu'il essaye de mettre à la lumière.
Donc finalement, ce que vous dites, c'est que la philosophie doit être capable de tout décrire, y compris ses limites, y compris nos limites. Donc elle n'est pas toute puissante, mais elle est capable de décrire ses limites. En ce sens, c'est quand même une très grande confiance dans la philosophie. Ça veut dire
qu'il y a une confiance. Oui, le terme de confiance, oui, mais pas de confiance béate.
C'est ça.
Ou illusoire, c'est-à-dire en croyant que la philosophie aura le dernier mot et que, mais non, ce n'est qu'un langage parmi tant d'autres finalement et qui ne parle pas à tout le monde en plus. Hein. Donc voilà, dans l'expérience même de la philosophie, maintenant, si on prend le métier de philosophe qui est le nôtre ici autour de la table, je pense qu'on fait cette expérience de fait d'avoir une pensée ou d'arriver à avoir une pensée quand on en a une, qui est une pensée qui est toujours limitée, toujours critiquable par un côté et qui n'épuise certainement jamais l'objet dont on parle par ce moyen-là. Et pourtant, il ne faut pas désarmer, il faut continuer à parler malgré tout.
La vraie philosophie se moque aussi un peu de la philosophie, on comprend les limites, vous le dites à votre manière. Rosane Lebert, vous tournez aussi vers les puissances de l'expression spontanée, de la littérature. Est-ce que vous pensez que la philosophie... Mais Jean-Michel Lourgnaud vient de dire que ce n'est pas la seule ressource, bien sûr, mais à quoi est-ce que vous recourez face à ces trous noirs dont vous pensez qu'ils résistent quand même à la lumière?
Il me semble que justement l'entreprise philosophique, elle est là aussi, c'est-à-dire d'aller établir des liens, d'aller justement observer ce qui se passe autour de cet événement du deuil et de la perte, et de constater que voilà, même dans l'œil du cyclone, au final... on n'arrête pas de dire qu'on peut rien dire sur le deuil, mais il y a énormément de discours sur le deuil. Voilà, quand on pense à l'expérience d'une personne qui perd un proche, il y a cette tentation de ne rien dire. Ou à l'inverse, de pas arrêter de parler.
Oui, c'est ça. Il y a ceux qui disent qui n'arrivent pas à parler, et ceux qui parlent à côté. Et puis finalement, entre les deux, faut
voilà,
trouver...
et d'une répétition aussi parfois qui revient, qui réappuie. Et dans ce mouvement-là de silence ou de répétition, il se passe quelque chose. Et ça, on peut le voir, à mon avis, de façon philosophique, en abordant ça, en questionnant les discours et les pratiques autour de tout ça, que ce soit par la littérature, que ce soit par la psychologie, la psychanalyse, la sociologie, l'histoire aussi. Voilà, qu'est-ce que ces différents champs nous disent? Comment finalement ça constitue des abords peut-être différents? Pour ma part, la littérature, elle m'a semblé fondamentale pour aborder cette question du deuil, parce que j'avais l'impression justement d'une parole qui était une mise en mots qui permet de voilà, de toucher du doigt ce...
Tu parles à la première personne
voilà,
aussi.
Qui s'engage aussi et qui est peut-être très très proche de l'expérience du deuil. Et une des questions que je me suis posée, c'est finalement pourquoi, quand on est en deuil, on a besoin... est-ce que tout le monde se pose cette question-là? Je ne sais pas. Mais pourquoi on a besoin de lire des choses sur le deuil?
Vous pensez effectivement, ça c'est très important, Rosane Lebert, vous pensez qu'effectivement il y a un réflexe aujourd'hui, peut-être c'est dans nos sociétés finalement, où il n'y a plus peut-être des rites, on va revenir tout à l'heure sur les aspects sociaux, politiques du deuil, mais dans nos sociétés, peut-être qu'un de nos rites récents, c'est de quand on a un enfant, on lit les livres sur comment élever son enfant, quand on est malade, pour le deuil lui-même, on a des ressources nouvelles, c'est un peu des rites nouveaux, des besoins de lecture, une offre aussi, des ressources. Et c'est plutôt bien, non, d'avoir ces ressources.
L'offre existe, ça c'est certain, ce qui montre bien que ça parle à beaucoup de personnes. Alors la question à qui ça parle exactement, ça serait aussi intéressant à creuser.
Parce que ça peut devenir un marché. Il y a des professionnels du conseil en deuil dont vous n'êtes qu'en partie et de manière clinique, ce qui est très différent. Les textes littéraires, ils sont aussi sur cette... C'est des ressources.
Voilà. Moi, je les vois vraiment comme des ressources. C'est-à-dire... et ça, je pense que ça existe de tout temps. C'est-à-dire ça répond sans doute à une des fonctions de la littérature, en partie. Hein. Il peut y avoir de multiples fonctions. Mais en tout cas, peut-être une fonction consolatrice. C'est-à-dire de chercher une forme de baume apaisant dans la littérature, dans la lecture d'autres qui ont perdu leurs proches, pas forcément dans les mêmes circonstances, dans les mêmes avec les mêmes expériences, mais en tout cas une expérience qui nous parle.
Alors avant d'en reparler avec vous deux, on va passer par un deuxième morceau d'expression humaine mais musical à nouveau. Mmh.
France Culture.
À présent,
Frédéric Worms.
À présent, faire sa place au deuil. On parle souvent de faire son deuil, mais il s'agit peut-être d'abord de faire sa place à cette expérience dans nos vies, dans nos sociétés, dans notre présent, qui lui préparait une place avant des expériences qui peut-être si graves qu'elles ne la permettent plus. Nous en parlons ce soir avec Rosane Lebert, philosophe à Lille et membre du Centre d'éthique clinique, et Jean-Michel Longniaux, qui est docteur en philosophie et enseigne la philosophie à Namur en Belgique. Jean-Michel Longniaux, on parlait de faire sa place au deuil. On a parlé du faire sa place au fond subjectivement à l'expérience du deuil, philosophiquement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension sociale nécessaire? Rosane Lebert parlait au fond du besoin du cadre social, à la fois dans l'institution de soins, on va y revenir, mais aussi dans le discours social, l'acceptation de l'expérience du deuil dans une société. Vous avez un chapitre sur les rituels. Dans nos sociétés, justement, Rosane Lebert parlait des discours sur le deuil qui s'est marché finalement aussi du discours sur la perte, autant qu'il y en a un sur l'amour et sur la naissance, heureusement. Hein. Mais dans nos sociétés, comment est-ce qu'on fait sa place socialement et politiquement à ces expériences-là?
La question est tellement vaste que je ne sais pas par quel bout la prendre. En tout cas, qu'il y ait un besoin de socialisation.
Peut-être par l'ébranlement d'aujourd'hui, justement.
Oui, tout à fait. Oui. Ben, c'est vrai que donc dans la crise que nous avons traversée ici, donc vous l'avez vécu aussi bien que chez nous en Belgique, pour des raisons de santé publique, donc les derniers hommages à rendre aux morts, donc les rites par lesquels traditionnellement on dit adieu à un mort, donc ont été interdits dans un premier temps, et puis après cinq personnes, enfin puis on a réouvert un petit peu, ouais. Mais ça a été toujours en gardant des distances, ouais. Je ne sais pas, ouais. Si on permettait aux gens de pleurer, mais enfin bon, ça a été vraiment contraignant.
Ah, ça mouille le masque, hein.
Ben oui, voilà, oui, c'est ça.
Je plaisante, mais c'est
un vrai. Non, mais c'est pour dire qu'il y a eu des contraintes telles qu'en tout cas ça a empêché, en tout cas les gens l'ont vécu, enfin beaucoup l'ont vécu comme l'impossibilité de faire son deuil, quoi. Mm-hmm. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, ça a été un révélateur quand même intéressant, qu'on a besoin de rites. En réalité, on a beau dire oui, non, on n'est plus à l'époque des sauvages ou je ne sais quoi d'autre, les rites c'est pour les autres. En fait, donc, la crise que l'on a traversée ici avec des gens qui souffraient d'être privés des gestes qu'ils pensaient devoir donner, montre à quel point effectivement nous en avons besoin. Alors, qu'est-ce qui est en jeu dans ces gestes, quels qu'ils soient? Donc, il ne faut pas faire l'inventaire de tout ce qui est possible, évidemment, mais l'enjeu, effectivement, c'est qu'on ne peut vivre pleinement ce que l'on est, donc c'est-à-dire vivre sa souffrance, son désespoir éventuellement, que si d'abord on le vit pour soi, qu'on en a conscience, qu'on se permet d'être triste ou qu'on se permet effectivement d'être en colère, mais surtout on ne peut être pleinement dans ce que l'on vit que si ça passe par le regard d'un autre. Mmh. Et la dimension sociale.
Oui, vous dites
sociale.
Même, vous avez une très belle phrase dans votre livre, vous dites « Le plus court chemin de soi à soi passe par les autres ».
Voilà, exactement, oui, tout à fait. Donc c'est-à-dire que, pour prendre une situation très très simple, qui permet de le comprendre, si vous avez un secret avec lequel vous vivez depuis longtemps, et vous vous dites « ça, je mourrai avec, mais personne ne le saura jamais », d'abord, on a le droit d'avoir un jardin secret, évidemment, mais n'empêche qu'on peut se demander, c'est la question qui est intéressante, je trouve, c'est est-ce que ce n'est pas parce que je suis toujours en souffrance et en délicatesse avec cela? Et c'est-à-dire que, comprenez bien, donc le fait d'oser socialiser, c'est-à-dire d'en parler à une personne, si vous prenez ce contexte très limité, ou bien d'en parler à plusieurs, ou bien de le vivre d'une manière ou d'une autre, d'acter effectivement ce que l'on est, à travers le regard des autres, eh bien c'est à la fois le moyen et le résultat, c'est-à-dire c'est ce qui permet effectivement d'être enfin pleinement dans ce que l'on vit, d'être reconnu par les autres pour ce que l'on est, et c'est ce qui permet de se réconcilier avec soi-même. Tant que je n'ose pas, il y a comme un clivage en nous, je sais ce que je suis, mais je ne peux pas le vivre.
Alors,
et
Jean-Michel,
là, c'est le début de la souffrance.
Jean-Michel Longniaux, dans votre analyse du deuil, vous le définissez aussi comme la nécessité, finalement, pour celui qui est en deuil, qui n'est pas la personne qui est morte. La mort est une autre expérience que le deuil. C'est un autre sujet, finalement. Ouais, la mort et le deuil. Le deuil, c'est aussi la manière d'accepter ce qu'on est devenu. On est devenu différent. On est devenu, vous parlez du terme veuf et veuve. Voilà. Vous avez d'ailleurs une note qui dit qu'il n'y a pas de mots en français pour ceux qui ont perdu leurs enfants. J'écoutais une émission récemment sur une autre chaîne de cette maison, Radio France, où une traductrice de l'hébreu, Valérie Zenati, disait qu'en hébreu, il y a un mot pour les parents qui ont perdu leurs enfants. Je ne saurais pas vous dire lequel.
Oui, voilà. Oui,
mais j'étais frappé par cette expérience de l'intraduisible, justement. Mais vous disiez, pour l'accompagnement, alors le langage compte beaucoup, mais vous disiez qu'une société se reconfigure pour nous aider à accepter ce que nous devenons.
Voilà.
Et par exemple, vous dites dans une famille, ben voilà, la veuve, on a d'autres égards avec elle, on change aussi et on permet aux autres. Parfois, ça peut être violent malgré tout. Il y a du négatif là-dedans. Comment est-ce que quel rôle de la société pour nous aider à faire ce travail tel que vous le définissez?
Donc d'abord dire que ce qui nous sauve est ce qui peut nous perdre. Donc c'est vrai que tout ce que l'on va mettre en place sur le plan donc social notamment pour essayer d'aider les personnes à traverser un deuil est aussi ce qui peut malheureusement les perdre. Alors dans les pistes que...
Il y a une ambivalence toujours.
Toujours, mais quoi qu'on fasse. Donc ça c'est... Et il faut assumer. Et il faut l'assumer dans le sens où pour éviter le danger, on voudrait renoncer du coup aux moyens. On perd aussi ce qu'il peut apporter de positif.
Ah oui, exactement.
Et alors là, on se perd complètement. Donc quoi qu'on fasse, c'est vrai que le deuil, c'est quand même prendre un risque. Donc d'abord sur le plan strictement individuel, je reviendrai à votre question après, mais d'accompagner des gens qui vivent des deuils, c'est accompagner parfois certaines personnes qui vont se mettre en danger, qui vont faire des choses qui sont inadmissibles du point de vue des bien-pensants et des bien-portants, mais n'empêche que la personne en a besoin. Et c'est la question alors éthique, on parlait d'éthique tantôt, jusqu'où accompagner des gens qui se mettent en danger, sachant qu'ils ont besoin de passer par là. Sur le plan social, ce qui est assez étonnant, donc c'est vrai que je me suis cassé un peu la tête là-dessus parce que je me demandais, mais dans le fond, il y a tellement de gens qui disent on n'a plus de rites, et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'il y a des deuils pathologiques.
C'est devenu banal, oui.
Voilà, donc c'est la chanson qu'on nous sert toujours. Mais en même temps, j'avais comme une espèce de réticence, parce qu'une société sans rites, ça me paraissait, mais c'était purement théorique, mais ça me paraissait tellement inconcevable, ou bien alors c'est plus une société, enfin. Et donc je me suis demandé, mais où trouver dans notre propre culture des rites qui sont effectivement des manières de se faire reconnaître dans ce qu'on est en train de vivre aux yeux des autres. Et ce que j'ai trouvé, alors à travers toute une analyse qui est un peu long ici d'expliquer, mais que effectivement nous avons des rites en Occident. Le propre d'un rite, c'est que ça n'apparaît jamais comme un rite.
On une vit fois comme que... naturel, finalement, on voilà. vit comme et, évident.
C'est-à-dire que j'aime bien la citation de Charles Lecoeur qui dit « Le rite apparaît toujours donc comme un rite aux yeux des autres, mais pour celui qui le vit, ça apparaît comme des gestes techniques. » Et quand vous acceptez cette petite définition, enfin en tout cas cette petite remarque de Charles Lecoeur, c'est intéressant parce que de fait, nous avons des gestes qui, à nous, nous semblent tout à fait techniques, c'est pas des rites, on fait des choses très concrètes, mais qui en réalité aident à socialiser le deuil. Et donc, sous-entendu, ici une conséquence déjà, avant de dire lesquelles, c'est que les acteurs de ces gestes techniques font donc beaucoup plus que de la technique quand ils travaillent. Alors, quels sont ces gestes? En gros, donc, pour donner un exemple, il est clair que parmi les discours qui se traduisent par de la technique, il y a notamment le monde médical.
Bien sûr.
Et croyant soigner, on se contente de soigner et puis c'est tout, on n'est là que pour soigner. En fait, on ne se rend pas compte à quel point la maladie, les soins, le fait d'être considéré comme malade par un soignant me permet à moi d'exister dans ma souffrance, ce qui est terrible. Si vous vous souvenez des gens qui étaient atteints autrefois de ce qu'on appelle aujourd'hui la fibromyalgie, donc des gens pour lesquels on n'avait pas de mots en médecine pour dire ce qu'ils avaient. Les médecins, parfois, on a entendu des histoires comme ça, n'avaient qu'une réponse, écoutez, c'est dans votre tête, vous n'avez rien.
Mais ce déni-là, c'est effectivement un refus de prendre en charge. Ce qui est très important dans ce que vous dites aussi, Jean-Michel Longnot, c'est que ça souvent on oppose la mort à l'hôpital, qui est pensée comme une mort technique, à la nostalgie de la mort fantasmée du passé, qui aurait été dans le sacré, et comme si dans le technique il n'y avait pas du rite, c'est-à-dire aussi du sacré, et puis des transgressions aussi. Alors, Rosane Lebert, vous qui pratiquez aussi les soins palliatifs, ces institutions qui ont mauvaise presse parce que finalement elles sont parfois décrites comme des mouroirs, justement comme des lieux où on n'affronte pas, y compris à la on ne respecte pas la liberté des gens, on les voilà. Vous êtes d'accord avec ce rôle de l'institution aussi, ces cadres qui ritualisent même dans des techniques, des règles qui semblent pas du tout sacrées mais qui en fait ont leur part d'humanité et de sacré.
Effectivement, oui, le cadre permis par les institutions, finalement elles nous portent aussi en partie. Alors elles peuvent aussi nous détruire ou nous rendre plus faillibles, mais elles ont pour but, pour viser d'offrir justement une forme de contenance. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends beaucoup du côté des soignants en soins palliatifs, où voilà cette attention à l'autre et à l'autre vivant, puisque un service de soins palliatifs, c'est un soin au vivant jusqu'au bout, et c'est pas un soin aux morts, c'est un soin au vivant jusqu'au bout. Une attention justement à plein de petits gestes, voilà, un besoin d'être entendu, d'être écouté. Voilà, un besoin dans ce qui fait le quotidien.
Et vous diriez aussi ritualisation, comme dit Jean-Michel.
Et la ritualisation, elle est effectivement très très présente. Alors pas toujours explicitée de façon consciente, et c'est justement ça qui est intéressant. Moi, ça me rappelle ma première expérience de stage en soins palliatifs au tout début de ma thèse, et où on m'avait un petit peu dit en m'accueillant, mais en gros, qu'est-ce que tu viens faire là, puisque nous on travaille avec des vivants, on n'a rien à voir avec le deuil.
Parce que vous disiez, voilà, je fais une thèse de philosophie sur le deuil,
Donc
voilà, je voulais voir comment ça se passe finalement chez vous.
Et il m'avait dit, on n'a rien à vous dire là-dessus, parce que nous on travaille avec des vivants, le deuil il n'est pas ici. Et au final, moi, ce qui m'avait beaucoup intéressée dans leurs propos et dans leur pratique surtout, c'est que en fait le deuil était présent, que ce soit dans l'anticipation, dans l'accompagnement du patient et des proches, et pas du tout comme une attente morbide, mais bien comme quelque chose qui soutient la vie et qui envisage aussi la possibilité de la mort. Et du coup, des petits gestes des soignants dans ces pratiques rituelles, on en trouve beaucoup. Voilà, que ce soit allumer une bougie, que ce soit penser à envoyer un mot à la famille et un mot individualisé, etc. C'est quand même des choses qui prennent du temps, qui prennent une forme d'inventivité aussi.
Comme fondamental, c'est pas secondaire. Voilà. Ce que vous dites aussi, c'est que c'est pas du tout.
C'est quelque chose qui fait partie du soin, en fait, qui fait vraiment partie du soin et qui est fondamental pour les soignants.
Comment est-ce que vous décririez les conséquences politiques de tout ça, Rosane Lebert, la volonté finalement, là, quand vous pratiquez ces métiers-là, les pratiquer aux deux sens, les pratiquer au sens où vous les fréquentez, au sens où vous les pratiquez quand même vous-même aussi, comment est-ce qu'il faut politiquement faire sa place à toutes ces expériences, et pourquoi est-ce que c'est fondamental dans nos démocraties, Rosane Lebert?
À mon sens, c'est vraiment fondamental dans nos démocraties, puisque ça, finalement, ça met au cœur de nos sociétés, au cœur du politique, finalement, ce qui va être notre fondement, à savoir nos pertes. C'est assez paradoxal de devoir
certains
passer
diront que c'est très négatif ce que vous dites. Voilà, justement,
je vais passer pour la pessimiste des services, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de fondateur en fait dans nos pertes, dans nos morts, dans nos pertes qui font communauté aussi et qui vont permettre aussi une vie morale et politique, qui vont permettre de, voilà, justement dans tout ce qui est de l'ordre de l'accompagnement de la fin de vie par exemple, de se dire bah, qu'est-ce qu'il va être juste de mettre en place pour accompagner ces personnes pour que par exemple leurs proches le vivent le moins mal possible.
Et vous-même, Jean-Michel Longneau, dans vos propos, il y a évidemment des aspects politiques. Vous aussi, vous insistez en apparence sur le négatif. Je vais relire finitude, solitude, incertitude. On vit un moment d'incertitude. Pour vous, il y a une politique de l'incertitude à travers la politique du deuil, comme auraient dit certains.
En tout cas, d'abord, c'est vrai que pour pour aller le plus loin possible dans ces notions de finitude, solitude, incertitude, j'ai essayé de montrer aussi qu'elles avaient justement un côté éminemment positif. Notre culture, notre idéologie, évidemment, repousse et rejette ces concepts. Donc, il faut être bien dans sa peau, épanoui, etc. Et tout ça, la finitude, solitude, incertitude, ça pue. Enfin, donc, c'est insupportable. Ça nous rappelle des choses qu'on veut justement ne pas voir. Et pourtant, donc, ce que j'ai essayé de faire à travers des expériences de nouveau rapportées, c'est que quand on apprivoise la finitude, solitude, incertitude, eh bien, c'est incroyable de voir. Il y a plein de témoignages possibles, que effectivement ça devient une force dans l'existence. Alors ceci étant dit, sur la dimension politique, il y a une phrase de Gramsci qui me vient à l'esprit, qui dit plus ou moins ceci, qui dit quand un monde s'efface et que le nouveau monde tarde à venir, entre les deux, c'est les monstres qui sont lâchés. Et donc la question du deuil, que ça soit le deuil par rapport à un mort, ou bien toutes les blessures, tous les drames que peuvent vivre une communauté, une nation, c'est vrai que si on ne prend pas soin de ce qui se passe lorsqu'un monde s'effondre, on risque de voir les monstres lâchés, et les monstres, une fois qu'ils sont lâchés, c'est terrible.
Il y a un moment très dangereux dans la perte.
Voilà, tout à fait.
Vous reconnaissez
l'un. Voilà, oui. Donc là, c'est la vie et la mort qui se jouent, si vous voulez. Et par conséquent, c'est vrai qu'à un niveau social, à un niveau politique, la prise en charge de ce moment intermédiaire, à travers des rites, à travers le jeu de la démocratie, à travers tout ce que vous voulez, peu importe au niveau où vous vous placez, c'est une façon non pas d'éteindre les monstres, parce que si vous les éteignez, si vous essayez de les faire rentrer dans la niche, ils ressortiront tôt ou tard. Mais c'est d'essayer d'en faire quelque chose de positif et de rebâtir effectivement alors une nouvelle, un monde d'après, enfin une nouvelle communauté, en tenant compte donc de ce qui a été vécu là. Donc c'est vrai qu'il y a une dimension politique parce que c'est le vivre en commun finalement qui en dépend.
Et il faut affronter tous les risques qu'il y a autour. Il faut maintenir ce monde commun même quand il est ébranlé dans les crises collectives, dans les événements que nous vivons aujourd'hui. Rosane Lebert et Jean-Michel Lognon, un tout dernier mot, il nous reste vraiment une minute chacun.
Mais il me semble que c'est justement la mise au centre de cet objet du deuil que dépend justement cette créativité du monde commun, en fait.
Justement, pour affronter le négatif collectivement, alors que nous avons à apprendre à le faire aussi individuellement, Jean-Michel Lognon.
Voilà, oui, mais moi, je ne dirais pas que pendant le temps de la crise, il faut préserver la communauté. Ou le lien, non. Ce que j'aurais plutôt tendance à dire, c'est dans le moment de la crise, c'est de voir comment refaire lien, mais accepter qu'on passe par la crise. Les crises qui sont à la fois des opportunités, comme tout le monde le sait.
Merci infiniment à vous deux pour cette réflexion commune sur ces objets douloureux. À présent, ce soir, nous avons tenté de faire place au deuil avec Rosane Lebert et Jean-Michel Lognon, avec et grâce aussi à Cédric Chatelus, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Vogt. À vendredi prochain, 21h. Bonsoir.